De nos jours, chaque personne sur Terre connaît le trophée de la Coupe du Monde de football. Mais ce que chaque personne connaît moins, c'est l'histoire rocambolesque de l'ancien trophée de cette même Coupe du Monde. Entre cache-cache avec les nazis et différents vols lors des éditions suivantes, retour sur l'étonnante histoire du trophée Jules Rimet.
C'est fait, les Bleus sont champions du monde! Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français!
L'Union Lassiande met Marseille KO!
Goal, goal, goal! Goal de Cristiano!
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut.
Aujourd'hui, nous innovons. Je ne vais ni vous conter l'histoire d'un événement particulier, ni celle d'un sportif, mais plutôt de celle d'un trophée. Le trophée de la compétition. Avec les Jeux Olympiques, la plus regardée au monde, la Coupe du Monde de football. Ou plutôt, l'ancien trophée de la Coupe du Monde de football. Fin juin 1930, à Villefranche-sur-Mer. L'équipe de France et son entraîneur embarquent à bord du Conte Verde et y retrouvent l'équipe de Roumanie. L'équipe belge les rejoint le lendemain et le navire jette les amarres direction l'Uruguay. Pour aller disputer la première Coupe du Monde de football de l'histoire. À bord se trouvent également trois arbitres européens et Jules Rimet, président de la FIFA, qui emmène avec lui le trophée du futur vainqueur. Le voyage de deux semaines se passe dans une ambiance très conviviale, où les différentes équipes s'entraînent tour à tour sur le pont du bateau. Elles sont rejointes par l'équipe brésilienne, qui embarque sur le paquebot au passage. Le bateau et toute la compagnie accostent à Montevideo le 4 juillet, où une foule de 10 000 personnes accueille les différentes équipes à bord. Après une semaine d'entraînement sur place, la Coupe du Monde est officiellement lancée le dimanche 13 juillet à 15h, avec deux matchs simultanés sous les flocons de neige tombant sur Montevideo, France-Mexique et États-Unis-Belgique. Le premier but de l'histoire de la compétition est d'ailleurs l'œuvre d'un Français, Lucien Laurent. Il expliquera. Quand j'ai marqué ce but, j'ai eu une joie simple, celle d'un buteur normal avec ses coéquipiers. On a dû tout juste s'embrasser ou se taper dans la main avant de reprendre le jeu. Sur le coup, je ne me suis même pas posé la question de savoir si c'était le premier but du mondial. Je n'ai pas réalisé. Ce match sera gagné 4 buts à 1 par l'équipe de France, mais elle n'arrivera pas à disputer la demi-finale au terme des matchs de la phase de groupe de la compétition. Au terme du tournoi, parmi les 13 équipes en lice au départ, la finale opposera deux équipes voisines, l'Argentine et l'Uruguay. C'est l'équipe jouant à domicile qui deviendra la première équipe à soulever la coupe. La coupe remise au vainqueur, justement. Parlons-en. Contrairement au trophée remis de nos jours à l'équipe victorieuse de la Coupe du Monde, celui-ci n'est pas fait d'or, mais plutôt d'argent massif plaqué or et mesure environ 35 cm de haut pour un peu moins de 4 kg. Il est l'œuvre du sculpteur parisien Abel Lafleur. Ce trophée est tout un symbole lorsque l'équipe victorieuse le soulève, car elle représente la déesse Nike, déesse de la victoire. Il a d'ailleurs une vocation très particulière. Il sera conservé définitivement par la première équipe triple victorieuse de la Coupe du Monde. Mais pourtant, le trophée, aussi étrange que cela puisse paraître, ne fera pas seulement parler de lui uniquement lors de sa remise. Il connaîtra tout un lot de péripéties qui forgeront sa légende. La première d'entre elles commence en 1939. À l'époque, la FIFA est en train de décider quelle nation va avoir le privilège d'organiser la Coupe du Monde 1942. Deux pays sont candidats, l'Argentine et le Brésil. Mais lors de la visite par Jules Rimet des infrastructures existantes brésiliennes, l'Allemagne envahit la Pologne et commence alors la Seconde Guerre mondiale. Jules Rimet et sa fédération cessent alors leur visite dans les pays organisateurs et prennent ensemble la décision d'annuler la Coupe du Monde 1942. Le trophée est alors propriété de l'Italie, qui a remporté le mondial en 1938 en France. Elle a d'ailleurs conservé son titre puisqu'elle avait déjà été championne chez elle durant l'édition précédente. Mais lors de l'envahissement de l'Italie par les troupes allemandes, Hitler se dit que prendre possession du trophée assouvirait encore plus sa domination sur le monde entier et prouverait, une nouvelle fois, la grandeur et la puissance de son armée. Mais un homme n'est pas dupe. Ottario Barassi, Ce nom ne vous dit peut-être rien. Pourtant, c'est à lui que le trophée doit son salut. Cet homme n'est autre que le président de la FIGC, la Fédération Italienne de Football, mais également vice-président de la FIFA. Durant l'année 1942, cet homme retire secrètement le trophée de la Coupe du Monde rangé dans un coffre d'une banque italienne afin de le mettre en lieu plus sûr. Après quelques réflexions sur le meilleur endroit où cacher ce trophée, il décide de l'emporter avec lui et de le cacher dans une boîte à chaussures sous son lit. Mais en 1944, alors que le régime fasciste de Mussolini est en train de sombrer, le chancelier allemand Adolf Hitler décide d'envoyer sa Gestapo et ses SS en mission pour récupérer le trophée. À plusieurs reprises, les soldats allemands fouillent alors de fond en comble l'appartement de Barassi, mais sans jamais regarder sous le lit. Ottario Barassi fait alors mine d'être totalement interloqué et de ne pas comprendre ce qu'étaient venus chercher les soldats, tout en prétextant que le trophée avait été emmené à Milan. Quelques années après la capitulation de l'Allemagne, Ottario Barassi sort alors le trophée de sa cachette et le rapporte tout fièrement au Brésil, prochain pays organisateur de la Coupe du Monde qui aura lieu en 1950. Il est alors accueilli en héros au pays du football et est désormais connu comme l'homme qui a sauvé la Coupe du Monde des mains des nazis. La deuxième péripétie qui forgera la légende de ce trophée a lieu en 1966. Cette année-là, la Coupe du Monde fait escale pour la première édition au pays fondateur du football, en Angleterre. Le trophée est fièrement exposé au cœur de la Westminster Central Hall à Londres, où avait lieu une exposition de timbres. Une équipe de 5 gardes est alors mise en place afin d'assurer une surveillance permanente sur ce fameux trophée. Mais au matin du dimanche 10 mars, alors qu'il semblerait que c'était le jour de congé du garde posté au pied du trophée, certains employés découvre à 10h10 précise que la coupe a disparu et que sa vitrine a été forcée. Le ou les voleurs sont passés par la porte de derrière afin de se faire discret. Mais le plus curieux dans cette histoire est que les voleurs savaient ce qu'ils étaient venus chercher. Ils ont seulement emporté avec eux le trophée d'une valeur de quelques milliers de livres à l'époque, tout en laissant tous les timbres dans leur vitrine, dont la collection était estimée à plus de 3 millions de livres selon la BBC. Pourquoi avoir seulement volé ce trophée ? Politiquement parlant, il ne faut surtout pas que l'affaire s'ébruite. Ce serait un drame si toute la planète entière était au courant du vol du trophée, seulement 3 mois avant le début de la compétition. En coulisses, les instances s'activent. Scotland Yard est chargé de l'enquête, et le secrétaire de la Fédération Anglaise de Football se rend en urgence chez George Bird, un joaillier londonien, afin de créer une réplique du trophée identique à l'original. Tout ceci, dans le plus grand secret bien sûr. Mais peu à peu, une rumeur se répand au sein de la population anglaise. Le trophée de la Coupe du Monde aurait été enlevé. Scotland Yard lance un appel à témoins et confirme ainsi la rumeur. Le trophée n'est plus. La police anglaise reçoit alors des témoignages plus farfelus les uns que les autres. Un homme aurait même indiqué à la police que son horloge lui aurait dit que le trophée était caché dans la ville de Wicklow, en Irlande. Mais parmi tous ces témoignages invraisemblables, la police arrive à trouver un suspect aux heures approximatives du vol. Toujours selon la BBC, cet homme est décrit comme étant au début de la trentaine, de taille moyenne, avec des lèvres fines, des cheveux noirs combinés et une possible cicatrice sur le visage. L'espoir renaît, mais malheureusement, la piste s'arrêtera là et l'homme ne sera jamais identifié. Mais quelques jours après le vol, un mystérieux appel va totalement changer la donne. L'homme qui passe l'appel, un certain Jackson. L'homme qui reçoit l'appel, Joe Mears, alors président de la Fédération Anglaise de Football. Jackson indique qu'il est l'auteur du vol du trophée et qu'il réclame 15 000 livres de rançon en échange. Afin d'appuyer ses propos, il fait même parvenir à la police un petit morceau du fameux trophée Jules Rimet. Le rendez-vous se met en place afin de procéder à l'échange dans une centrale électrique désaffectée à Battersea, au sud-ouest de Londres. Chacun joue de son bluff. La police amène à Jackson une mallette remplie de papier journal ainsi que de seulement 500 livres de vrais billets afin de masquer l'arnaque. Jackson, lui, indique que le trophée n'est pas avec lui et qu'il faut prendre la voiture afin d'aller le retrouver. L'homme essaie alors de s'échapper en voiture et de semer les forces de l'ordre qui arriveront tout de même à arrêter le fuyard. Malheureusement, le trophée n'était bel et bien pas en sa possession. Il indiquera aux enquêteurs avoir agi sous l'ordre d'un commanditaire, nommé The Paul, en échange de 500 livres. Un nouveau rebondissement va également bouleverser cette affaire, mais cette fois-ci, pour de bonnes raisons. Le dimanche 27 mars 1966, soit une semaine après le vol du trophée, un homme, David Corbett, sort tranquillement de son appartement sud-londonien afin d'aller sortir Pickles, son chien noir et blanc âgé de 4 ans. Corbett s'arrête alors dans la cabine téléphonique de son quartier afin de passer un appel lorsque le chien renifle un petit buisson. Son maître se rend alors au pied du petit buisson afin de voir ce qui a attiré l'attention de son animal. Il découvre alors un paquet enveloppé de papier journal. Il raconte. C'était un objet solidement emballé avec du papier journal et de la ficelle. Il était posé contre une roue de la voiture de mon voisin. Je l'ai ramassé. Il était assez lourd, bien que pas très grand. L'IRA étant très active à l'époque, j'ai d'abord cru à une bombe. J'ai reposé le paquet par terre, puis je l'ai repris, et encore reposé. Finalement, la curiosité l'a emporté. J'ai un peu déballé le bas. C'était un simple disque. J'ai continué, j'ai vu. Brésil, Allemagne, Uruguay. Je me suis précipité à l'intérieur de ma maison vers ma femme. Elle était l'une de ses épouses anti-sport. Mais j'ai dit, j'ai trouvé la Coupe du Monde, j'ai trouvé la Coupe du Monde. Mais tout comme Mauro Prosperi dans un précédent épisode de mon podcast, alors qu'il pensait être le héros dans l'histoire, il va être arrêté par la police et interrogé pendant de très longues minutes. Il expliquera pour le Guardian. J'étais le suspect numéro 1. Ils m'ont interrogé jusqu'à 2h30 du matin. J'étais debout à 6h le lendemain pour le travail. Je me suis demandé si je n'aurais pas dû laisser le trophée sur la route. Mais la police finit bien par se rendre compte que Corbett n'était pas l'auteur de ce vol. Pickles sera érigé en héros national. Il recevra un an de nourriture gratuite par la marque Spillers et aura la chance de tourner dans un long métrage. Il aura également le privilège d'assister, avec son maître, à la finale de la Coupe du Monde qui opposera l'Angleterre à l'Allemagne de l'Ouest. Écoutons alors une vidéo du Figaro nous permettant de revivre cette mythique finale de la Coupe du Monde 1966.
Mais la finale la plus controversée de l'histoire de la Coupe du Monde est celle de 1966 en Angleterre, qui oppose la RFA de Franz Beckenbauer à l'Angleterre de Bobby Charlton. La patrie du ballon rond joue son honneur dans l'Empire Stadium. Le temps réglementaire s'achève sur un nul de partout. Pour la première fois de l'histoire, une finale de Coupe du Monde va se jouer aux prolongations. Mais le règlement ne prévoit pas encore de tir au but. En cas d'égalité, à la fin des 30 minutes de temps supplémentaire, la finale sera rejouée 3 jours plus tard. La tension est à son comble. Au début des prolongations, très précisément à la 100e minute, l'attaquant anglais Hurts frappe le ballon qui vient heurter la transversale avant de rebondir à proximité de la ligne de but et d'être évacué en corner. Et là, c'est le drame. L'arbitre hésite et consulte son juge de touche. Les secondes sont interminables, mais l'arbitre valide. Et le but devient le but le plus controversé de l'histoire. À cet instant, les arbitres sont les seuls convaincus que le ballon a passé la ligne. Aujourd'hui encore, aucune image ne peut confirmer ou non sa validité. L'Allemagne digère très mal cette décision, mais Hurts inscrit un second but et l'Angleterre remporte la finale. Geoffrey Hurts, ancien joueur professionnel de cricket, vient d'entrer dans l'histoire en devenant le premier et jusqu'alors l'unique auteur d'un triplé en finale de Coupe du Monde. En revivant cette finale et malgré quelques erreurs d'arbitrage, l'Angleterre mérite bien son titre de championne du monde en 1966. Le capitaine anglais Bobby Moore monte à la tribune après s'être essuyé la main sur le drap de la loge royale pour ne pas salir le gant blanc de la reine Elisabeth II qui lui remet le trophée Jules Rimet.
Mais revenons à notre chien héros. Il recevra, avec son maître, 5 à 6 000 livres de récompense selon les sources, soit environ 5 fois plus que la prime que les joueurs anglais recevront après avoir remporté leur première Coupe du Monde et à domicile qui plus est. Malheureusement, l'histoire était trop belle. L'année suivante, lors d'une balade avec le fils de David Corbett, Pickles démarre en trombe et sprint en chassant un chat. Le jeune fils n'arrive pas à retenir son chien et la laisse s'échappe de sa main. Pickles sera retrouvé inanimé quelques minutes plus tard étranglée par sa laisse, alors qu'elle se serait accrochée à un arbre. David Corbett l'enterre alors dans la maison qu'il a achetée avec l'argent de la récompense de la découverte du trophée. Une plaque commémorative a aussi été placée en son honneur. Pickles, le découvreur de la Coupe du Monde 1966. Aussi, selon un article du Parisien, condamné à 2 ans ferme pour la demande de rançon et non pour le vol du trophée, Jackson, de son vrai nom Edward Batchelay, mourra peu après sa sortie de prison, en 1969, laissant planer le mystère sur cette affaire. Un tas de mystères plane encore sur ce vol. Était-ce Edward Batchelay qui a volé le trophée, ou alors a-t-il vraiment agi selon les ordres d'un commanditaire comme il l'annonce? S'il s'agit de cette dernière hypothèse, qui est ce fameux commanditaire? Pourquoi les voleurs n'ont-ils pas dérobé également les timbres d'une valeur faramineuse? Pourquoi le ou les voleurs ont-ils laissé ce vieux paquet au bord d'un arbre dans le jardin, au risque d'être confondu avec un paquet d'ordures? Tant de questions qui resteront sans réponse, mais qui forgeront la légende du trophée Jules Rimet. Faisons ensemble un petit saut de 4 ans dans le futur. Cette année-là, a lieu la Coupe du Monde 1970, se déroulant au Mexique. Au bout de 3 semaines de compétition, le Brésil sort vainqueur du tournoi, et le footballeur élu meilleur joueur de la compétition sera Edson Arantes do Nascimento. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais lorsque je vais prononcer son surnom, vous allez immédiatement le reconnaître. Pelé. Pelé devient alors le premier et seul footballeur jusqu'à maintenant à avoir soulevé 3 Coupes du Monde en tant que joueur. Mais en ce qui concerne le trophée, le plus important cette année-là est tout autre. Lors de la création du tournoi en 1930, Jules Rimet avait décidé une règle qui va changer l'apparence du trophée pour les années à venir. A l'époque, il avait décidé que lorsqu'une nation remporterait 3 titres mondiaux, elle pourrait garder définitivement le trophée et la FIFA allait en créer un nouveau. C'est donc ce qui s'est passé lors de cette Coupe du Monde 1970. L'équipe brésilienne a pu emmener avec elle le trophée Jules Rimet afin de l'exposer définitivement sur ses terres. Un nouveau trophée allait être créé par la FIFA. Parmi les 53 propositions de design faites par des sculpteurs de 7 pays, c'est la sculpture de l'Italien Silvio Gazzaniga qui sera finalement retenue. Sa sculpture est celle que vous connaissez tous. Elle représente 2 sportifs soulevant le globe. L'ancien trophée est alors conservé en lieu sûr, mais est déplacé en 1983 lors d'une exposition au siège de la Fédération Brésilienne de Football à Rio. C'est à ce moment-là qu'a lieu notre 3e et dernière péripétie. Dans la nuit du 19 au 20 décembre 1983, 5 hommes s'introduisent dans le siège de leur fédération nationale, armés d'un couteau et d'une arme à feu. Ils ligotent le gardien de nuit et s'introduisent dans le bureau du président de la fédération brésilienne, situé au 9e étage. Ils y découvrent le fameux trophée, placé sous une vitre blindée. Mais ces hommes sont bien renseignés. Le trophée était placé sous une vitre blindée du côté du public. C'est vrai. Par contre, ce que personne ne sait, à part les voleurs, c'est que, du côté du mur, le trophée est seulement protégé par une simple planche de bois. Les voleurs réussissent à déceler le panneau de bois du mur grâce à un pied de biche et découvrent alors ce qu'ils étaient venus chercher. Le trophée représentant la déesse Nike. Ils repartent tous fiers de ce qu'ils ont accompli et la découverte du vol peinera toute une nation entière fan de football. Aussitôt, lorsqu'elle apprend ça, la presse anglaise se venge et ressort des phrases prononcées par la presse brésilienne lors du vol du trophée en Angleterre avant la Coupe du Monde 1966. Un tel vol ne serait jamais arrivé au Brésil. Même les voleurs brésiliens aiment le foot et ne commettraient jamais un tel sacrilège. Raté. Quelques arrestations ont lieu, mais aucune condamnation n'est prononcée. Pelé, lui, pardonnera les voleurs en prononçant une phrase dédouanant ceux-ci en imaginant que leur vol a été effectué à cause de la pauvreté régnant dans le pays. Mais tous les Brésiliens ne seront pas aussi conciliants envers les voleurs. Lorsque l'on s'attaque à l'un de leurs symboles nationaux, il faut s'attendre à en payer le prix fort. Antonio Carlos Aranha, un des suspects arrêtés pour le vol, sera retrouvé assassiné de 7 balles dans le corps en 1989. Une croyance populaire veut que le trophée aurait été fondu. mais ce trophée est fait d'or et d'argent mêlés, ce qui rend impossible sa fonte. Où est-il actuellement? Est-il sur la cheminée d'un riche homme d'affaires, caché dans les favelas de Rio ou caché dans une boîte à chaussures sous un lit? Personne ne le sait. Et plus personne n'entendra parler du trophée Jules Rimet, jusqu'en 1997. Cette année-là est marquée par le décès de George Bird, auteur de la copie du trophée, en 1966. Ses héritiers décident alors de mettre aux enchères la réplique du trophée confectionnée suite au vol en Angleterre. Le prix de départ est de 20 000 livres, soit environ 10 fois la valeur réelle de l'objet. Et pourtant, deux enchérisseurs bien particuliers vont se battre afin de remporter l'enchère. La FIFA et la Fédération Brésilienne de Football. Les deux instances soupçonnaient le fait que lors de la Coupe du Monde 1970, l'Angleterre avait échangé le réel trophée et la réplique, en gardant l'original et en rendant la réplique pour l'édition suivante. Finalement, c'est la FIFA qui remporte l'enchère pour 254 000 livres. Son premier réflexe est alors de faire expertiser la coupe afin de déterminer quel trophée elle a acheté. Manque de chance, il s'agissait bien de la réplique en bronze de Bird. Il y a encore tout un tas d'anecdotes surprenantes et étranges que j'aurais pu vous raconter sur ce trophée. Comme le fait qu'après sa victoire en 1954, la RFA aurait rendu la coupe pour l'édition suivante grandie de 5 cm de plus. Mais personne ne s'en était rendu compte ou inquiété à l'époque. De nos jours, la règle stipulant que le triple vainqueur du trophée aurait la chance de le garder définitivement n'existe plus. Le trophée gardera jusqu'à la fin de ses jours sa forme actuelle. Pourtant, celui-ci n'est pas éloigné de tout mystère ou étrangeté non plus. Officiellement, le trophée pèse environ 6 kilos. Mais pourtant, les spécialistes affirment que s'il était réellement fait d'or massif, il devrait peser 15 à 20 fois plus lourd. Un mystère de plus qui vient donc s'ajouter à l'effarante liste de mystères de l'ancien trophée. Une chose est sûre, ces trophées sont encore très loin de nous avoir confié tous leurs secrets. C'était Sportcast, merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir sur mes différents réseaux sociaux, à noter ce podcast ainsi qu'à le partager. N'hésitez pas également à me donner des idées de sujets dont vous aimeriez que je parle. Je les traiterai peut-être dans un prochain épisode. Salut !